Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Allez, on embarque dans un pays où les pyramides tiennent en équilibre sur leurs pointes. Un pays sans arbres dont le ciel jaune est écorché par des tours trop hautes. C'est le pays de Lou. Lou qui a un terrifiant pouvoir. Quand elle souhaite du mal à quelqu'un, eh bien ça arrive. Gare à Lou vient de paraître chez Julliard. Et je reçois son père, l'épatant Jean Telet.
Europe 1.
Bonjour Jean.
Bonjour Isabelle.
Alors cher Jean Telet, dans ce monde où presque tout aujourd'hui fonctionne grâce à des algorithmes, dans ce monde où les conflits sont permanents mais qui exigent en toute chose de la transparence, ce monde qui impose la pensée unique, politiquement correcte et qui place des radars d'ailleurs partout dans nos vies pour nous contrôler, eh ben dans ce monde-là, en fait, serait-il temps de faire un peu de place à la pensée magique ?
Ben oui, c'est ce que je me disais exactement, je pense tout ce que vous venez de dire. Et j'avais envie de me lâcher, d'écrire comme un conte futuriste et tout. Et moi, depuis pas mal de livres, j'écrivais des livres liés à l'histoire ou des trucs comme ça. Et plein de contraintes, fallait surtout pas que je me trompe dans les dates, dans les noms et tout. Et de temps en temps, en écrire un où on peut se lâcher complètement, c'est un livre qui se passe dans un pays dont on ne connaît pas le nom, à une époque qu'on ne sait pas, futuriste et tout. Donc tout était possible et je me suis dit, je vais me lâcher complètement.
Voilà. Mais vous êtes fatigué du réel, Jean Telet ?
Je suis fatigué de l'époque actuelle et tout, et c'est vrai que j'aime bien soit raconter des histoires qui se passent dans le passé, ou bien comme avec Gare à Lou dans le futur, mais bon, le monde actuel et tout me gonfle un peu, et puis j'ai pas envie de non plus, mais en même temps je donne aucune leçon aux autres écrivains, chacun fait ce qu'il veut, c'est bien normal, mais j'ai pas envie de parler de moi, j'ai l'impression qu'en ce moment beaucoup d'écrivains c'est j'ai mal aux genoux, je vais faire un livre là-dessus, ça devrait intéresser le monde entier, et moi je m'en fous complètement de ça.
Alors Jean Telet, il existe vraiment le contrôleur de billets SNCF qui serait à l'origine de l'idée maîtresse de ce nouveau roman?
Mais oui, j'étais un jour dans une librairie, dans une ville de province dont j'arrive pas à me souvenir, je me demande si c'est pas Tours, j'en sais rien. En tout cas, j'étais en train de dédicacer. À un moment, le libraire vient me voir. Il me fait, Jean, il y a un problème. Votre train est à 18h30. Et là, vous voyez l'heure. Il va falloir partir pour aller à la gare. Mais en même temps, regardez tous les gens qui attendent des dédicaces. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je lui dis, il faut que je rentre à Paris. Surtout que demain, je repars dans une autre ville de province et tout. Et il me dit, oui, mais il y a un train à 20h. Bon, s'il y a un train à 20h, je vais prendre le train de 20h. Et j'arrive à la gare, je monte dans le train, je me mets en tête de compartiment. Un moment, assez vite d'ailleurs, un contrôleur arrive, me demande mon billet, je lui montre, il n'y a pas de problème, et puis il va chercher les billets des autres passagers. Et puis tout d'un coup, je pense à mon voyage du lendemain, j'avais une question, il posait un renseignement, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et je le rappelle, je fais « Monsieur, je peux vous poser une question ?» Il revient me voir, je lui pose ma question, il me regarde, il me dit « Je peux voir votre billet ?» Je dis « Mais je viens de vous le faire voir. » Il dit « Oui, ben faites-le voir encore. » Alors je ressors mon billet. Il le regarde, il me fait, vous n'êtes pas dans le bon train, vous auriez dû prendre le train de 18h30 et vous avez pris le train de 20h. Je dis, effectivement, et alors? Il dit, je vais vous mettre une amende. Je dis, quand même, vous êtes gonflé. Je vous fais voir mon billet, il n'y a pas de problème, je vous rappelle pour un renseignement auquel j'ai toujours pas la réponse d'ailleurs. Et vous allez me coller une amende? Il me fait, oui. Et je lui dis, si je veux pas payer? Il me dit, c'est pas compliqué, j'appelle la police, la prochaine gare, ils viennent vous chercher. Bon, je sors la carte, je paye. Et là, au moment où il va pour partir, il m'arrive un truc en tête qui m'est jamais arrivé, que j'ai jamais dit à personne. Je lui dis, monsieur, regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vous souhaite un très grand malheur pour très bientôt. Et si jamais ça se produit, au moment où ça arrive, rappelez-vous de moi. Et là, moi, c'était une ânerie que je lui disais. Et là, tout d'un coup, j'ai senti qu'il se fissurait, que ça lui faisait vraiment un truc. Il me fait « Ah ben, c'est gentil, ça !» Et puis, il est reparti, mais au lieu de repartir dans le sens pour prendre les billets des passagers comme il allait, il est reparti dans l'autre sens et je n'ai plus jamais revu. Et tout d'un coup, je me suis dit « Oh, ce serait marrant de raconter l'histoire d'un personnage qui aurait ce pouvoir-là et tout. Ah, puis tout de suite, mais arriver des trucs comme des flashs, ça serait une petite fille et tout. Et m'est arrivé en tête l'expression gare au loup. Dis, ah, bah, c'est une petite fille qui s'appellerait
Lou.
Et tout est venu comme ça. Et puis.
Alors, vous notiez dans le train?
Non, même pas, je notais même pas, mais dans ma tête, je me disais, mais des trucs que je sais même pas d'où ça me venait. Elle habitera dans une très haute tour qui s'appellera la tour de l'incendie. Ça sera une tour si haute qu'on n'appellera plus ça un gratte-ciel, mais un écorche-cieux. Ça se trouvera au bord de l'avenue du bonheur. En face, il y aura le bar des cendres. Mais tout est arrivé comme ça. Je ne sais pas d'où. Je suis arrivé à Paris, j'avais la moitié du livre en tête. Et ce qui fait que ce contrôleur, j'y en veux pas du tout. Parce que
finalement, non.
80 ou 120 euros d'amende qui m'a collé, il m'a
vous
dit
merci. Vous imaginez un peu.
Et maintenant, moi qui reprends beaucoup le train, je me dis, si ça se trouve, je vais retomber sur lui. Et j'espère que là, il ne me demandera pas des droits d'auteur.
Mais, alors, c'est...
Mais si ça
c'est...
se trouve, comme je dis souvent, si ça se trouve, il est mort. Et ben voilà.
Alors, des tours de 1,5 km qui écorchent le ciel, des arbres artificiels, la poussière de sable qui recouvre le monde, plus de sources, et puis de l'air pur stocké dans des réserves souterraines. Le monde dans lequel vit Lou est celui qui nous attend après-demain.
Ouais, je crois que c'est en ça que c'est un roman futuriste. Ça décrit un monde qui va être un peu bizarre. Et dans Gare à Lou, il y a même tous les pays ont des noms différents des noms de maintenant, des noms inventés et tout. Et dans Gare à Lou, il y a un pays qui s'appelle l'archipel des mille cavernes qui revend ces gisements souterrains d'air pur à d'autres pays, parce qu'on en est là, comme là maintenant on achète des trucs souterrains de gaz, de pétrole ou je sais pas quoi, là on en est, des pays en sont à vendre leurs gisements d'air pur.
Incroyable. Bon, ce monde, il est effectivement terrifiant, mais votre prose, Jean Tellet, elle est infusée de douceur. Elle a changé, en fait, votre prose. L'écrivain rabelaisien que vous étiez a vraiment des accents de poète.
Mais vous avez raison, parce que j'avais décidé dans ce roman de me donner deux limites. Moi qui peux souvent être grossier dans mes livres, et voilà. Là, j'avais décidé.
Trivial.
j'avais décidé que ce serait dans ce roman, il n'y aurait pas un seul gros mot. Et moi aussi qui ai pu beaucoup critiquer les religions, tout ça. Et j'avais décidé qu'il n'y aurait pas un mot de religion. Mais même pas pour en dire du mal. Et qu'il n'y aurait pas un temple, pas une église, pas une mosquée, il n'y aurait rien du tout.
Aucune expression qui fait référence,
et même pas
en fait.
Voilà, même pas d'expression quotidienne, comme on dit. Ah, c'est un enfer, c'est le paradis.
C'est
même
démoniaque.
Pas, mais, voilà, même pas un « je vous en prie ». Comme si les religions n'existaient pas. Eh ben, ça fait du bien, un monde où il n'y a rien qui est lié aux religions.
Oui, parce que je sais que vous dites qu'en fait, les dieux sont des Pères Noël pour adultes.
Ouais. Et j'ai entendu l'autre jour, il y a quelques jours, j'étais à Bordeaux, j'ai entendu quelqu'un qui m'a raconté une phrase de Prévert que je ne connaissais pas, que je trouvais vachement bien, qui dit « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas ». Et je trouve cette phrase vraiment, vraiment jolie.
Alors, tout ce que veut Lou arrive, surtout lorsqu'elle souhaite du mal à quelqu'un, mais pas seulement, quand elle rêve aussi. Et ça, c'est le pouvoir ultime. Ainsi, quand elle rêve des pyramides qui tiendraient sur leur pointe, eh bien, à son réveil, effectivement, les pyramides tiennent en équilibre sur leur pointe. Et vous, Jean Tellet, quelle serait l'envie avouable que vous mettriez en avant avec le pouvoir de Lou ?
Ces derniers jours, je me prends un petit peu pour elle, et l'autre jour, je voyais un type qui arrive, comme vous avez sans doute dû voir ça, qui arrive en scooter parce que la rue était bouchée, sur le trottoir, qui slalome entre les gens et tout, et je l'ai regardé comme ça, j'ai dit « Oh mon con, j'aimerais bien que tu t'envoles avec ton scooter et ton casque et tout, et que tu te retrouves dans les nuages et que tu saches pas comment redescendre. » Et voilà, c'est des trucs comme ça que j'aimerais bien
Il n'a pas fait de vol plané au moment où vous avez songé ça.
Non.
Bon, vous l'avez compris, la balade qu'on est en train de faire cet après-midi s'annonce tout à fait hors norme. Je reçois Jean Tellet qui vient de faire paraître chez Julliard Gare à Lou. On fait une pause très courte, on le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit un écrivain à l'occasion de la parution d'un roman futuriste.
Elle est redoutable, Lou. Quand elle souhaite du mal à quelqu'un, ça se produit. Gare à Lou vient de paraître chez Julliard et je reçois son père, en tout cas son créateur, Jean Tellet. Jean Tellet, votre maman était un auteur de séries noires sans le savoir. Parce qu'il paraît qu'elle prenait un plaisir fou quand vous étiez enfant à vous conter des récits macabres.
Mais oui, elle me racontait que des faits divers avec des horreurs, des trucs comme ça. Et moi, je m'endormais avec ça en tête, pétrifié de panique et tout. Et quand on me demande pourquoi j'écris souvent des histoires terribles et tout, bah je crois que c'est à cause d'elle.
Mais vous pensez qu'elle en rajoutait parce que vous le réclamiez ou
mais
quoi?
Mais non, je sais pas. Je crois que c'était son goût. Puis
elle jubilait à vous voir terrorisée.
Voilà, elle se rendait pas bien compte et elle me racontait que des histoires horribles. Et ce qui fait que bah voilà le résultat.
Bon, mais pour autant, ça n'a pas fait de vous un lecteur. Il paraît que c'est Léo Ferré qui a fait de vous un lecteur et vous a entraîné chez Verlaine, chez Rimbaud.
Ouais. J'étais au collège, j'étais rentré pour déjeuner chez mes parents, il y avait la radio allumée et il passe une chanson, c'est extra. J'écoute ça, je suis stupéfait tellement je trouve ça beau. Après, je retourne à l'école et je croise un copain qui y allait aussi. Puis je lui dis, oh dis donc, tout à l'heure à la radio, j'ai entendu une chanson incroyable d'un nouveau chanteur qui s'appelle Léo Ferré. Et il me dit, bah non, c'est pas du tout un nouveau chanteur, c'est un vieux chanteur, mon frère, il l'adore, il a des disques lui et tout. Et il me dit, mais je vais t'en apporter un disque. Et pour pas que son frère s'en rende compte, il avait pris un 33 tours, mais il l'avait sorti de la pochette pour pas qu'il s'aperçoive du vol, et il me l'apporte. Et moi, j'écoute ça, et j'écoute les paroles, entre autres, et je me dis, mais c'est pas possible, comment il écrit, ce mec? Et puis, au bout d'un moment, je regarde quand même sur le rond qu'il y avait au milieu du 33 tours, et je vois que les paroles étaient soit de Verlaine, soit de Rimbaud. Je me suis dit, mais c'est qui ces deux mecs? Et c'est comme ça que j'ai découvert Rimbaud et Verlaine, et que je suis entré dans la poésie.
Voilà, dans le club des poètes, ensuite Nerval...
Et Villon.
Et Villon, bien sûr, on vous a même demandé un jour de faire le conférencier, n'est-ce pas, dans une grande bibliothèque historique de la ville de Paris. Vous êtes retrouvé au milieu d'universitaires brillantissimes.
Avec les trois docteurs en Villon qu'il y a sur Terre, et qui sont d'ailleurs maintenant les trois morts. Il y avait un Français, un Écossais et un Tchèque, et moi. Et j'en revenais pas. Et,
l'autodidacte
et
total.
Et il me contredisait pas du tout. Et après la conférence, il me dit, mais vous êtes à notre niveau. Oh là là, quel honneur que ces gens-là m'aient considéré aussi savant qu'eux, pratiquement. Bah ouais, j'étais content. Ouais.
Ils exerçaient quel métier, vos parents, Jean Tellet ?
Mon père était charpentier, et puis après menuisier, et ma mère... concierge de la mairie d'Arcueil, en banlieue sud parisienne. Puis après, elle est devenue femme de ménage dans des écoles. Voilà.
Et vous adhériez à leur vision du monde, à leur goût, à leurs rêves? Ou bien vous pressentiez en vous un autre carburant?
Ils étaient communistes. Et quand j'étais enfant, j'adorais ça, les communistes. Je comprenais même pas comment on pouvait ne pas être communiste. Maintenant, j'ai bien changé. Mais tous les copains ouvriers de mon père me plaisaient beaucoup. J'aimais tout. J'aimais leur voix, j'aimais leur sourire, leur solidarité entre eux, j'aimais leur odeur. Et je me souviens même de détails, ils allaient souvent le midi à la boulangerie s'acheter des baguettes qui venaient d'être faites où on leur mettait des rillettes. Et je trouvais que ça sentait bon. J'aimais tout chez ces gens-là. Et puis le dimanche, il y avait des gens qui frappaient à la porte et qui apportaient l'humanité dimanche. Et puis un journal pour enfants qui s'appelait Vaillant à l'époque. Et
oui,
Pif le chien après.
Voilà.
Et j'adorais ces gens-là. J'avais une passion totale et je me disais, c'est ça la beauté du monde. Et
vous avez adhéré aux jeunesses communistes?
Oui. Et puis ils m'ont viré.
Pourquoi?
Ils m'ont viré parce que je travaillais gratuitement pour un mensuel qui s'appelait Avant-Garde, qui était le mensuel des jeunesses communistes. Et un jour, à Ivry, il y a eu une assemblée générale où quelqu'un s'était aperçu que je travaillais aussi pour le groupe Philippe Aki, pour Mademoiselle Achetante, Salut les copains et tout. Et ils avaient écrit à Avant-Garde en disant, on vient de s'apercevoir que le dessinateur d'Avant-Garde travaille aussi pour la presse capitaliste. C'est une honte. Et ce qui est fou, c'est qu'à la direction d'Avant-Garde, il m'avait dit y a un problème parce que tu travailles pour la presse capitaliste. J'ai dit, mais attendez, pour vous, je travaille gratuitement. Et il faut bien que quand je vais faire les courses, que je paye. Et puis, c'est pas une honte et tout. Et ils m'ont dit, ah non, il faut que tu choisisses. J'ai dit, je choisis et puis je me casse.
Bon, mais en tout cas, avant que vous n'ayez ce premier métier, je continue de défiler le fil en fait de votre histoire. Il y a un homme qui vous a sauvé la vie quand vous étiez adolescent. Cet homme, il s'appelait Pierre Pillaud, voilà. Vous étiez en classe de 3e, avec une belle réputation de cancre, il faut dire. Et voilà que l'éducation nationale décide pour vous que, finalement, une vie de mécanicien auto va parfaitement faire l'affaire. Alors que, bon, votre trip, c'est pas du tout l'huile de vidange. Vous êtes totalement stupéfait. Et voilà que Pierre Pillaud, donc, prend en main votre destin.
Et, oui.
Et c'est lui, en fait, qui va vous mettre sur la rampe de lancement de la toute première vie, encore celle d'écrivain.
Exactement. Et il me dit, quand il me voit faire la tronche à l'école, un jour j'arrive, on commençait par le cours de dessin, il me dit, bah, toi qui as l'habitude d'aller joyeux, t'en fais une tête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, comme je suis dernier de la classe, en truc d'orientation, on m'a collé en mécanique auto. Putain, je vais me prendre de l'huile de vidange toute la vie sur la gueule. Oh. Et il me dit, mais non, t'es plutôt bon en dessin, tu pourrais rentrer dans une école de dessin. Je savais même pas que ça existait, moi, une école où on dessinait. Et il me dit, mais bon, c'est très compliqué. On entre là-dessus sur concours, il y a 500 candidats, ils prennent que les 50 premiers. Donc c'est très difficile d'entrer là-dedans.
C'était l'école de dessin de la rue Madame,
ouais,
à Paris.
Exactement, ouais. Une école qui maintenant s'appelle Maximilien Vox, mais à l'époque on disait l'école de la rue Madame. Et il me disait, mais si tu prends beaucoup de cours de dessin le soir, peut-être que le coup est jouable. Et je lui dis, mais ouais, les cours de dessin c'est payant, mes parents sont pauvres, donc laissez tomber, je vais faire mécanique auto. Et il me dit, ben non, moi je vais t'en donner des cours et tes parents n'auront rien à payer. Et il m'a fait tous les soirs bosser, et dessine ta main, et dessine le vase, et dessine le bouquet de fleurs et tout. Et puis je suis allé un jour passer ce concours, il y avait 500 mômes comme moi dans la cour de la rue Madame.
Oui.
Je regardais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y a que le dixième qui y sera. Et tout. Et alors là, je me suis défoncé pour le concours. Et un jour, j'ai reçu une
lettre
où il y avait écrit « admis ». Et là, je me suis dit « ça y est, à partir de maintenant, je suis sauvé ».
Vous avez couru la montrer, cette lettre?
Ah ouais.
J'ai montré. Monsieur Pillaud.
Et je l'ai aussitôt appelé et tout. Et je m'étais dit... Toute ma vie, je vais le gonfler, ce Pierre Pillaud, en lui disant « Merci, monsieur. » Parce qu'un jour, j'ai rencontré un type comme vous, ma vie a changé et tout. Et 2 ans après, il s'est pendu. Et ça m'a collé un chagrin que j'ai encore. Je suis inconsolable de ça. J'aurais tellement voulu qu'il voit tout ce que je devenais et qu'il puisse se dire « C'est parce qu'un jour, je me suis bien comporté avec un môme. »
Mais c'est,
et voilà.
C'est terrible ce que vous nous apprenez là. Bon, 2 ans plus tard, cet homme se pend. Rien n'était annonciateur d'une fin aussi funeste.
On ne voit pas les coups venir avec ça. Parce que
on n'a jamais su pour quelle raison il avait décidé,
en fait,
de s'extraire de la vie.
Non, je crois que ce que je comprends, c'est que, comme beaucoup de profs de dessin, il rêvait, en fait, d'être artiste. Et que... c'était pas un artiste particulièrement doué. Et que je pense que ça a dû être ça, sa tragédie intime et tout. Et je me souviens que j'avais déjeuné avec lui une semaine avant sa mort. Et c'est marrant parce qu'on voit pas le coup venir avec ces histoires-là. Mais je me souviens qu'il y avait un truc qui m'avait surpris. On était dans un café et moi je m'étais assis sur la banquette et lui était sur une chaise face à un miroir.
Oui.
Et il m'a dit, est-ce que ça t'embête si on change de place? Il ne voulait pas se voir. Et je me rappelle aussi qu'il avait un foulard, et j'aurais dû comprendre ça, et qu'il n'arrêtait pas de dénouer, de renouer son foulard, et en fait il s'est pendu. Quoi. Après je me suis dit, mais j'aurais dû comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et j'ai rien compris. Quoi. Et je suis allé à son enterrement, et depuis je ne vais plus aux enterrements. Et j'ai trouvé tellement fou que ce qui lui était arrivé, que j'ai été pris d'un fou rire, mais qui avait choqué la famille et tout. Je ne pouvais plus m'empêcher d'éclater de rire à ses obsèques, tellement c'était une tragédie pour moi, et que ma façon de l'exprimer, ça était, aucune larme n'est coulée, mais des éclats de rire. J'ai jamais autant ri de ma vie qu'aux obsèques de ce type que j'aimais tellement et qui m'a sauvé la vie.
On retrouve tout de suite Jean Tellet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
15h21, on retrouve Isabelle Morizet et son invité pour la suite de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
C'est en compagnie de Jean Tellet qui vient de faire paraître chez Julliard « Gare à loup qu'on chemine » cet après-midi. Jean Tellet, la chance fait sûrement partie du talent, car faut nous expliquer comment on peut être réclamé par le journal L'Écho des Savanes quand on n'a jamais fait de bande dessinée.
Ah non, mais moi j'ai eu vraiment...
Parce que c'est ce qui vous est arrivé.
Oui, mais moi j'ai vraiment eu de la chance dans la vie. Je connais, je dis souvent, je connais pas la fin du film, de mon histoire, mais bon sang que j'ai eu de la chance jusque-là, parce que quand j'étais jeune, j'allais acheter mes tubes de peinture, mes crayons, tout ça, dans une petite papeterie à Arcueil, et à force d'y aller, j'étais devenu copain avec la papetière qui m'invitait des fois à déjeuner chez elle et tout. Et je lui apportais des dessins que je laissais comme ça sur la table et tout. Et je savais pas qu'elle était amie avec un dessinateur de bande dessinée qui s'appelait André Barbe et qui un jour vient dîner chez elle et voit les dessins et dit « Mais c'est qui fait ça ?» Elle dit « Ben c'est un de mes petits clients et tout. » Il dit, mais ce type-là, il faut qu'il fasse de la bande dessinée. Il m'a téléphoné, il m'a dit, je t'emmène à l'Écho des Savanes. Mais il m'a vraiment emmené. Et au patron de l'Écho des Savanes, il a dit, il faut publier ce type. Donc je me suis retrouvé à faire de la bande dessinée, alors que je n'en lisais pas, à part Vaillant, oui. Quand j'étais enfant, je n'en lisais pas.
Il a fallu intégrer tous les codes d'une manière immédiate.
Mais oui, et ne sachant pas comment dessiner les autres, moi je me suis mis à dessiner d'une façon particulière et qui a fait mon originalité. Ensuite, c'est Bernard...
C'est-à-dire, votre originalité, c'était Jean Tellet.
Je me disais, j'étais assez futuriste pour ça, je me disais, mais c'est bizarre de continuer à faire des images avec des bouts de bois avec une mine de plomb à l'intérieur ou avec des bouts de bois avec des poils de porc ou de martre au bout et tout ça alors qu'on est au 20e siècle. Je me disais, on est à une autre époque.
Abandonnons les crayons et les pinceaux.
Voilà, et puis il y a des photocopieuses, il y a des trucs comme ça et tout. Et j'avais racheté à ma papetière qui avait fait faillite, j'avais acheté sa photocopieuse, qui était un énorme meuble à l'époque. Et puis j'ai commencé à faire des images à partir de photocopies que je bidouillais ou je peignais dessus, je triturais et tout ça. Et donc, ça a donné un type d'image qu'on n'avait pas vu dans la bande dessinée qui a fait que c'était quelque chose
d'original. Mais c'est tout à fait étonnant parce que ce que vous nous racontez là, on imagine totalement une expo de ce genre de création. Ça fait plus art conceptuel que créateur de bulles, de BD.
Mais oui, et donc du coup, je faisais des bandes dessinées différentes, spéciales. Et puis même dans les sujets, assez vite, je me suis dit, plutôt que d'inventer des petites histoires avec un héros, comme ça, une sorte de Tintin et tout, je vais aller voir des gens en province et raconter leurs histoires, faire des portraits d'eux et tout. Et j'ai fait ça, et puis il y avait le fils de Bernard Rapp qui lisait mes bandes dessinées et qui, un jour, Rapp a lu ça et m'a appelé en me disant « Je compte arrêter de présenter le journal télévisé de 20h de Antenne 2 à l'époque, et pour faire une nouvelle émission qui va s'appeler L'assiette anglaise.
Ouais.
Je voudrais que vous fassiez la même chose que dans vos bandes dessinées, mais en télé. » Et moi qui n'avais pas la télé, je me suis retrouvé à faire de la télé.
Mais chaque fois, en fait, on vous a embarqué. Mais on vous a pris par la main, on vous a entraîné, on a ouvert une porte devant vous et on vous a poussé. Alors, j'ai encore une question à vous poser sur la bande dessinée, parce que comme vous ne faites absolument rien comme tout le monde, Jean Tellet, bah, il paraît que c'est le jour où vous avez reçu un prix spécial du jury à Angoulême que vous avez décidé d'arrêter définitivement la BD et de mettre tout, en fait, bon, vos crayons c'était déjà fait, on va dire la photocopieuse à la poubelle, vous ne vouliez plus en entendre parler, pour quelle raison?
Mais un jour, donc au festival d'Angoulême, on me donne un prix qu'ils n'ont jamais remis avant et plus jamais remis après, un prix spécial du jury pour, écoutez bien ça, contribution exceptionnelle au renouvellement du genre de la bande dessinée. J'ai reçu ce truc-là, j'ai cru que j'étais mort. Ça fait prix posthume. Et ils m'ont remis ça un samedi. Et le lundi, j'ai appelé mon éditeur, qui était Casterman à l'époque, en disant « J'arrête la bande dessinée ». Et absolument pas compris pourquoi et tout. Et j'ai arrêté net, et voilà.
Alors, vous avez arrêté net, c'était il y a presque 30 ans, Jean Tellet. Est-ce que l'image, parfois, vous manque ?
Non, c'était une autre vie. J'ai adoré faire ça, de la bande dessinée. J'aimais beaucoup ça.
En avez fait d'ailleurs pour Harakiri.
Oui, pour Harakiri aussi. Oh là là, quelle époque, la bande d'Harakiri. Ça, c'était de la folie.
Enfin, le professeur Choron trouvait que vous étiez plus fou que lui encore.
Mais c'était dément. Et j'ai vécu des trucs Harakiri. Je sais même pas si je les ai vraiment vus, vraiment vécus. Des trucs que je jamais racontés parce que je me dis, personne ne me croira. C'est C'était une folie totale, Harakiri. Et j'ai adoré ces gens-là, Rézère, Choron, Cavana, ouais. GB. Mais c'était des gens, mais absolument exceptionnels. Des gens qui, maintenant, un journal, qui, ça serait impossible que ça existe maintenant. Là, à tous les mois, l'immeuble exploserait d'Harakiri. C'était un tel niveau de provocation, mais c'était absolument incroyable.
Europe 1. On agite la mémoire cet après-midi. On fait une pause, on retrouve tout de suite Jean Tellet qui vient de faire paraître chez Julliard Gare à loup.
La suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Petite promenade cet après-midi dans le parcours d'un écrivain, romancier et auteur de BD. Et c'est avec Isabelle Morizet jusqu'à 16h.
Rien de plus réjouissant que de se balader en compagnie de Jean Tellet qui vient de faire paraître chez Julliard Gare à loup. Alors, cher Jean Tellet, bon, certains se battent longtemps pour que leur vie emboîte leur vocation. Vous, eh ben, en fait, à chaque grande étape de votre histoire, on est venu vous chercher pour vous proposer ce dont vous n'aviez même pas rêvé. Faire de la télé, bah, vous nous l'avez expliqué à l'instant, c'est parce que le fils de Bernard Rapp aimait vos BD, donc le père vous a embarqué dans l'aventure télé. Écrire, alors là, c'est plus miraculeux encore, j'ai envie de dire, parce que, en fait, une grande éditrice, un jour, vous repère à la télé, vous convoque dans sa maison d'édition et vous gratifie d'une phrase absolument improbable.
Mais oui, elle me dit, ça fait des années que je vous entends à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne le savait pas. Venez, je vous signe un contrat. Truc complètement dément. Et moi, je vais la voir. Et moi, je lisais pas de romans, ça m'intéressait pas. Et ça m'intéresse toujours pas, j'en lis toujours pas. Et c'était un moment où j'avais besoin d'argent. Et quand j'arrive dans son bureau, je repère tout de suite sur le bureau qu'il y avait un contrat et à côté un chèque. Je regarde le chèque, c'était à l'époque des francs, à l'époque je vois 50 000 francs.
En 91, ça faisait beaucoup d'argent,
oui,
50 000 francs.
De l'argent, c'est 50 000 francs. Hein. Et souvent, elle m'a rappelé notre première rencontre parce que elle me dit, voilà, je voudrais que vous écriviez un roman. Un roman. Alors moi, je lui dis, mais bon, un roman. J'étais que technique. Je lui dis, un roman écrit à la main, ça fait combien de pages? Elle me dit, ça dépend si vous écrivez petit, si vous écrivez gros. Je dis,
là, c'est l'auteur de BD voilà. Qui s'exprimait.
Mais oui. Et moi,
habitué à fractionner un récit.
Et je lui dis, oh, je dois écrire moyen. Et elle me dit, bon, ben, 200 pages. Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'être à l'école quand je faisais des bêtises et qu'on me collait 100 lignes. Je dis, 200 pages, écrire 200 pages. Et puis, je voyais surtout le chèque et je dis oui. Et je signe le contrat et je repars avec le contrat et le chèque. Et je me rappelle que je pars en métro pour rentrer chez moi. Et tout d'un coup, dans le métro, je lui dis, mais je suis con, moi, maintenant, il faut que j'écrive un livre. Et j'ai failli faire demi-tour pour retourner la voir en disant, je vous rends le contrat, je vous rends le chèque.
Mais la cupidité a été la plus
mais
forte,
voilà.
C'est ça.
Mais par cupidité...
Vous êtes devenu écrivain par cupidité,
ouais,
Jean
ouais.
Tellet.
Et j'ai écrit un premier roman, et puis il a marché, et puis je me suis dit, mais ça me plaît vachement ce
mais
boulot.
Mais voilà, ça vous plaît. Mais au tout début de ma question, vous nous avez fait l'aveu, en fait, de ne jamais lire. Et vous avez même précisé, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout.
Non.
La lecture de romans.
M'en fous c'est, complètement, c'est je m'en suis toujours
foutu.
C'est
étonnant, parce que c'est très décomplexé, un auteur de fiction qui dit, moi, la lecture, je m'en fous.
Mais ce qui est drôle, c'est que quand je faisais des BD, elles étaient originales, pas parce que je le voulais, mais parce que je savais pas ce que faisaient les autres. Quand j'étais à la télé, tout le temps où j'ai travaillé à la télé, je n'ai pas eu la télé. Donc je savais pas comment parler, comment s'exprimaient les gens qui faisaient de la télé. Donc moi je parlais comme je parle à mes potes, et du coup ça passait pour quelque chose d'original.
Oui, vous avez
les
votre
romans,
style.
C'est la même chose. Ne sachant pas ce qu'écrivent les autres, j'écris à ma façon, comme ça me vient. Et souvent les gens disent, ah, il a une façon originale, mais je le fais pas exprès. C'est que je sais pas comment les autres font.
Sauf que pour entrer en littérature, Jean Tellet, vous avez quand même fait appel à Rimbaud.
Ouais, bah oui, parce que en premier livre, je me suis dit, bon, il faut écrire un livre. Alors un livre, il faudrait que je trouve un sujet. Qu'est-ce que j'aime bien et tout. Et grâce à Léo Ferré, comme je racontais tout à l'heure, je m'étais pris d'une passion pour Rimbaud et j'avais rencontré un tas de fanas de Rimbaud qui étaient tous un peu tarés et tout. Et je me suis dit, hein, je vais faire un roman autour de ça, d'un personnage qui se prend pour Rimbaud. Il prend tout au pied de la lettre, ce qui fait que ça va le mettre que dans des situations ridicules, que cocasses et tout. Et c'est comme ça que j'ai écrit Rainbow pour Rimbaud et tout s'est enchaîné.
Et que l'aventure a démarré. Et 5 ans après la sortie donc de ce premier roman, un producteur de cinéma vous demande de porter à l'écran donc ce récit. Ainsi, vous vous êtes retrouvé cinéaste avec une pléiade de grands acteurs à diriger. Le rêve pour beaucoup de gens, mais vous, bah vous avez détesté ça.
Ça m'a gonflé.
Pourquoi ?
Ça. Il faut donner des ordres à tout le monde. Ah. Et moi, autant je n'aime pas qu'on me donne d'ordres, mais je me suis aperçu que j'aimais pas en donner non plus. Et ce tournage a été très compliqué et tout. En plus, ça s'est pas bien passé du tout avec la productrice. Et j'ai fait ce film qui a eu un prix à Cannes.
Votre premier film de cinéaste a été primé à Cannes, Jean Tellet.
Et j'ai décidé de ne plus jamais en refaire. Voilà. Ben ouais, c'est ce qu'on appelle une vie libre.
Voilà, exactement. Alors, vos romans ont très souvent été adaptés soit au cinéma, soit au théâtre. Par exemple, Le Magasin des Suicides est devenu un film d'animation dirigé par Patrice Lecomte et a donné lieu à une trentaine d'adaptations théâtrales. J'ai découvert que ça a été adapté jusqu'au Brésil et même en Chine.
On a joué Le Magasin
des Suicides. Est-ce que vous mettez votre grain de sel
Jamais, quand on transpose votre travail, de rien. Je ne me mêle de rien. À tous ceux qui adaptent mes livres, je leur dis, vous avez acheté les droits, alors les droits sont à vous. S'ils sont à vous, vous faites ce que vous
voulez. Vous avez tous les droits, au propre comme vous figurez.
Et ce qui fait qu'ils me trouvent tous hyper sympas.
Ben voilà. Et l'adaptation de l'un de vos romans qui vous a le plus bluffé, c'est laquelle ?
En cinéma, c'est Darling de Christine Carrière avec Marina Foïs et Guillaume Canet. En bande dessinée, il y en a eu plein que j'ai trouvé vachement bien. Au théâtre, il y en a eu deux que j'ai beaucoup aimé. C'est Mangez-le si vous voulez, qui s'est joué au Tristan Bernard. Et puis Darling au théâtre Héberto.
Ouais.
Ça, je trouvais ça vraiment très, très bien. Et des fois, je suis un peu déçu par les adaptations. Et alors, on a bien le droit de rater un truc.
Bon, vous êtes un électron totalement libre, ça on l'a bien compris. Libre au point d'avoir refusé, paraît-il, une offre de la Gaumont qui vous demandait d'écrire un scénario pour elle.
Oui, j'avais déjeuné avec, je crois que c'était une directrice de la Gaumont qui disait « Je voudrais que vous écriviez des scénarios pour nous ». Et j'ai tout de suite dit « Non ». Je dis « Mais comment ça, non ?» Puis je sentais qu'elle n'était pas habituée à entendre « Non ». Et elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Si j'écris des scénarios, je n'ai que des contraintes. Si j'écris des romans, je n'ai que de la liberté. » Et de toute façon, mes romans finiront par devenir des films ou des trucs comme ça. Donc c'est simple. Et j'ai dit « Non ».
Voilà. Mais quand vous écrivez des romans historiques, Jean Tellet, ce que vous avez souvent fait, en partant de faits réels, comme par exemple Le Montespan pour Charlie IX ou Entrer dans la danse, vous êtes contraint par une discipline d'historien, même si vous écrivez de manière rock'n'roll.
Ah oui, ça, je fais très attention à ce que je raconte.
À la documentation.
À que les faits soient vrais, que les dates soient exactes, que les noms soient exacts et tout. Mais après, je me donne aussi toute liberté dans les trous historiques, dans les dialogues et tout.
Pour réinventer l'histoire.
Mais autrement, il faut que ce soit vrai. Parce que si c'est pas vrai, ça n'a pas de sens. Quoi. Que tout ce qui est historique soit véritablement exact.
Je comprends pourquoi les trois universitaires qui vous entouraient à la Bibliothèque historique de la ville de Paris pour une conférence sur François Villon, je comprends qu'ils aient été bluffés.
Ah oui, ils étaient épatés, parce qu'à l'époque, j'étais encore un jeune type et ils se disaient, putain, dis donc, il est du bâtiment, lui.
Il est du bâtiment. C'est avec Jean Tellet qu'on se promène cet après-midi et c'est vraiment réjouissant. On le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
L'histoire d'une préado qui a le pouvoir de faire très mal à ceux qui la cherchent. C'est le postulat de base du nouveau roman de Jean Tellet, l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h sur Europe 1.
Jean Tellet fait paraître chez Julliard Gare à Loup. Il est cet après-midi mon invité. Cher Jean Tellet, quand on écrit des romans, c'est sûr, on n'a pas le temps d'en lire. Mais enfin, votre coquetterie vous pousse à nous révéler que vous, la fiction, vous n'aimez pas trop. Voilà, vous préférez la façonner, la fiction. J'aimerais bien savoir quel sentiment vous éprouvez quand vous déambulez dans une librairie.
J'y vais pas beaucoup, sinon pour dédicacer des livres. Sauf quand j'écris des livres historiques pour chercher justement des trucs d'historien pour bien connaître le sujet dont je vais parler. Mais, Mais
autrement, vous allez par exemple à la Bibliothèque nationale.
Ouais, non, à la Bibliothèque de la ville, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris,
ouais.
et où j'allais beaucoup. Et à force, j'étais devenu ami avec à peu près tous les bibliothécaires. Et quand je partais sur un sujet, ils me disaient il faut lire ceci, il faut lire cela. Et, tout. Et ça, j'aime bien, moi, l'ambiance des grandes bibliothèques comme ça.
C'est très studieux. Alors, vous qui étiez un cancre, en fait, cette ambiance studieuse.
Mais c'est drôle, je trouve ça exotique et tout. C'est très silencieux. On lit des trucs, on note et tout. Et c'est dans des beaux décors. Oui. Je trouve ça agréable. Ouais, ouais.
Puisqu'on évoque l'histoire, vous êtes un auteur rabelaisien assumé, Gentelet, et en même temps vous êtes fou de poésie. Et d'ailleurs, vous vouez une telle admiration à Verlaine et à Rimbaud que vous avez acheté, paraît-il, le contrat d'édition original des Fêtes Galantes de Verlaine, et vous avez également acheté une lettre d'Isabelle Rimbaud à son frère, Arthur.
Que j'ai revendu.
Vous l'avez revendu.
J'ai revendu chez Drouot. Ouais.
C'est vrai.
Ouais, ouais.
Parce que je voulais savoir, en fait, de quelle manière vous chavirez ces documents quand vous les teniez en main. Alors, vous n'avez plus que le contrat d'édition des Fêtes Galantes.
Voilà, ouais. Et la lettre de Rimbaud, je l'ai...
Vous auriez préféré avoir une lettre de Rimbaud
écrite
pour sa sœur.
Exactement. Et puis, je l'ai regardée une dizaine de fois, puis je me suis dit, bon, ça sert pas à grand-chose, en fait. Et du coup, je l'ai revendue, ouais.
Elle lui disait quoi, Isabelle, à Arthur ?
Elle lui disait, c'était une lettre peu de temps avant sa mort, où on lui avait coupé une jambe à Rimbaud, et il craignait de, comme il avait déserté, il craignait d'être obligé de faire son service militaire ou de rentrer dans l'armée. Et elle lui expliquait que non, qu'elle avait reçu une lettre officielle, comme quoi, surtout qu'il lui manquait une jambe, qu'il n'aurait pas à faire à ses obligations militaires et tout ça. Puis elle lui disait, quelle tristesse la vie, que tu sois dans cet état-là et tout. Et c'était une lettre de quelques semaines avant sa mort, où il est mort à Marseille, à l'hôpital, d'un cancer.
Vous écrivez toujours dans votre bureau de moine au fond d'une cour du Marais.
Exactement,
à Paris.
Et c'est vraiment un bureau de moine. Il n'y a absolument rien dans mon bureau. Il est complètement nu et tout. Et j'ai pas envie d'avoir mon passé sur les murs. J'ai pas envie d'avoir des affiches des pièces de théâtre qui ont été faites d'après mes livres, des affiches de films, d'un tas de choses.
Pas d'aspérité, pas de repère, pas de référence.
Je veux pas que mon passé m'étouffe. Je veux avoir l'impression d'être vierge, neuf quand j'arrive dans mon bureau. Il faut que ce soit nu.
Gentelet, votre prose est-elle la même quand vous travaillez dans votre maison en Bretagne, cette maison âgée de plusieurs siècles, qui paraît-il est nichée dans le pays de Dinan, là où les vents iodés transportent les rêves? Vous écrivez différemment en Bretagne?
Non, pareil. Mais j'ai fait disposer mes deux bureaux en Bretagne et à Paris exactement pareil. Mais tout, l'imprimante est à la même place, l'ordi c'est le même, les crayons c'est les mêmes et tout.
Oui, mais par la fenêtre.
Et la seule différence, mais non, même pas d'ailleurs, parce que j'ai des Velux à mon bureau à Paris et un Velux en Bretagne, et quand je passe d'un bureau à l'autre, je suis pas décontenancé parce que c'est le même.
C'est le même, mais bon, la végétation, elle...
Alors, par exemple,
comment se porte votre arbre préféré, cet if de 800 ans à l'intérieur duquel fleurit au printemps un cerisier?
Il est
toujours en vie.
Mais oui, ça c'est de la folie, ça. Il y a donc là-bas un conifère qui donne des cerises. Quand même la nature.
C'est un
arbre effectivement qui est dans les 800 ans, qui est énorme, absolument énorme, et creux à l'intérieur. Et là, on ne sait pas comment, une graine est arrivée, une graine de cerisier, et un cerisier pousse à l'intérieur de l'if.
Mais depuis de très nombreuses années, il s'est épanoui.
Et il doit avoir 50 ans, 60 ans, le cerisier. Et ses racines ne touchent même pas le sol. C'est-à-dire qu'il se nourrit de la matière du conifère. Et il donne des cerises.
Et alors, on
voit donc un conifère, et à l'époque des cerises, et qui donne des cerises. Alors ça, c'est quand même... Mais la nature, ça peut être
Mais vous ne l'avez jamais placé dans l'un de vos contes, dans l'un de vos romans, cet arbre ?
Si, dans... comme une respiration, je raconte cet arbre-là. Et ça, moi, j'adore ça, que la nature fasse des trucs comme ça, c'est invraisemblable. Et tout comme ma maison, c'est une très grosse maison qui a été construite l'année où Shakespeare écrivait Hamlet. Ça me plaît, ça. Et c'est une maison avec des murs d'un mètre d'épaisseur, tout en pierre sèche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liant. Et alors au printemps, et là je vais y aller dans quelques jours, au printemps tous les oiseaux du coin, comme la maison se trouve au bord d'une forêt, viennent entre les pierres pour nidifier. Et ce qui fait qu'au printemps, toute la maison fait cuit-cuit.
Pour
et
vous.
Ça c'est du bonheur, bon sens. Et ça console du monde, ça console de tout ce qu'on peut entendre, des catastrophes sur Terre. Je dis putain, il y a une maison qui fait cuit-cuit. C'est la mienne en plus.
On retrouve tout de suite Jean Tellet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dernière partie, Isabelle Morizet reçoit le romancier Jean Tellet.
Jean Tellet, vous qui avez trop d'imagination pour un seul homme, comment avez-vous pu tenir 12 ans avant de nous livrer une pure fiction ? Car Garalou est un conte fantastique, né exclusivement de vos délires personnels. Cette fois-ci, pas de source historique à triturer. Vous avez retrouvé la liberté en fait, du magasin des suicides,
mais
c'est
oui,
ça ?
Oui, et quand j'avais écrit le magasin des suicides, ça m'avait beaucoup plu d'écrire ce truc-là. Et assez vite, je m'étais dit, j'aimerais bien faire le pendant. Dans le magasin des suicides, il y avait un petit garçon
ouais.
qui s'appelait Alan, qui apporte le bonheur dans le magasin des suicides. Donc il fout un bordel. Et je me disais, j'aimerais bien un jour écrire un roman qui se passerait à peu près à la même époque comme ça, une fable pareille, mais avec le pendant féminin. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui aurait une particularité qui ferait que ça ferait faire un roman. Et je ne trouvais pas. Et puis je laissais passer le temps, et puis j'enchaînais des livres historiques et tout, jusqu'au jour où j'ai eu cette fameuse histoire avec mon contrôleur.
Voilà.
Où tout d'un coup, je me suis dit...
Qui a reboosté l'imaginaire.
Que depuis perpète, je me dis, mais il faut quel pouvoir elle pourrait avoir. Je me suis dit, eh ben voilà.
Le magasin des suicides est devenu un film auquel Patrice Lecomte a infusé une bonne partie de sa folie, de sa fantaisie. Et moi, je me dis que Garalou ferait des merveilles, filmé par Luc Besson, dans une veine entre celle du cinquième élément et de Lucie, par exemple.
Ouais, ça pourrait bien, ouais.
En lisant Garalou, j'imaginais le film que cela pourrait donner dans le viseur de Luc Besson.
Oui, c'est vrai que ça pourrait, ça serait bien. Et déjà, je sais que... Ça, c'est en train de se négocier que ça va devenir une bande dessinée, mais ce serait bien que ça devienne un film. Ah oui, j'aimerais bien ça, évidemment.
Alors, la délicieuse Lou, Jean Tellet, Lou qui est en couverture de votre roman et qui est génialement effrayante au verso du même roman, c'est une photo de synthèse ou bien elle existe ?
Non, c'est une vraie petite gamine. Et cette photo, je l'ai eue... J'étais en province et vous savez donc dans les salons du livre en province très souvent ils prennent des employés de municipaux pour venir donner un coup de main et s'occupent des écrivains pour ramasser les sous tout ça. Et moi il y avait une dame qui était là qui connaissait mes livres et qui me dit et votre prochain livre ça sera quoi? Je lui dis ah ben c'est un roman qui va s'appeler Garalou. Elle me dit oh, c'est drôle parce que ma fille s'appelle Lou. Et puis après elle me dit mais vous avez toujours des idées originales pour les couvertures. Vous avez déjà une idée pour ce que ce sera la couverture de Garalou? J'ai dit, ben, je voudrais une photo comme on fait à l'école les photos individuelles d'enfants où ils sont bien peignés, bien sages.
Voilà, les beaux amis du dimanche.
Voilà.
Et ne me dites pas que la maman vous a amené la photo de sa fille.
Et je lui dis, je vais demander chez mon éditeur, où il y a plein de dames qui y travaillent, à celles qui ont des filles, de m'apporter des photos de leurs filles quand elles avaient 11-12 ans et tout. Et je vais faire un casting et puis en choisir une. Et je lui dis ça un samedi, le lendemain, quand je retourne pour dédicacer, elle vient et elle me dit, oh ben je vous ai apporté une photo de ma fille. Je regarde la photo, je dis, mais c'est elle. Et elle me dit, mais vous allez demander...
La petite fille a su quel personnage hors norme elle allait incarner,
mais la petite fille
parce que c'est une lourde responsabilité. Et là, comme vous êtes un auteur toujours placé en tête des ventes, eh bien la petite Lou est exposée dans toutes les librairies de France et de Navarre, et même au-delà.
Mais oui, et cette gamine maintenant a 19 ans, et pour la remercier, je lui offre son permis. Et je lui ai dit
formidable.
Que si elle pouvait ne pas l'avoir à la 12e fois, ça m'arrangerait. Mais en tout cas, je lui offre son permis pour la remercier de sa photo.
Alors, le Periophthalmus barbarus, et bien comme
vraiment.
La petite loup, il existe vraiment,
oui.
N'est-ce pas, dans la chaîne de la création. Bon, il vous fascine cet animal, Jean Telet. Il vous fascine parce qu'il vit entre deux mondes.
Mais oui, alors, et j'ai découvert ça aussi, c'était rigolo. Aussi, ça c'était un jour, j'allais chez, faire des dédicaces chez un libraire, et le libraire après, il me propose de venir chez lui boire l'apéro. J'étais fatigué, tout ça, puis j'arrive dans son salon, et puis il y avait un canapé, j'étais assis, et puis il y avait un aquarium. Et je bois un whisky, tout ça, on parle. Et puis je regardais l'aquarium, et puis il m'en resserre un deuxième, et puis à un moment un troisième, et je regarde l'aquarium, et là je vois le poisson qu'il y avait dans l'aquarium sortir de l'eau et marcher sur un rocher.
Tranquille.
Et là je me dis, il faut absolument que j'arrête le whisky. Et je lui dis, mais le poisson là, il sort pas de l'eau. Et il me dit, si, si, mais c'est un Periophthalmus barbarus. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce poisson qui est très particulier.
Qui peut se promener dans l'appartement.
Et voilà, et qui sort et tout. Et si
qui fait très animal préhistorique.
Mais oui, et ça allait bien avec l'eau, parce que c'est comme si ça racontait l'évolution de la vie. Vous savez, on dit souvent que l'histoire de la vie sur Terre, c'est des bactéries, des choses comme ça, qui étaient dans l'eau, et puis que c'est devenu une sorte d'animaux qui, à un moment, ont découvert la Terre, et puis après, ça devient des animaux terrestres, et puis même nous, et tout. Et le Periophthalmus barbarus est pile à la charnière. Et pour loup, ça allait bien, parce que loup, elle quitte le monde de l'enfance, oui, pour arriver vers le monde adulte, et elle passe par une transition qu'on appelle l'adolescence. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un parallèle entre la Periophthalmus barbarus. En plus, quel nom, Periophthalmus barbarus.
Vous le prononcez si bien, vous êtes entraîné.
Ouais,
formidable.
Ouais.
Bon, en tout cas, vous aussi, Jean Telet, vous vivez entre deux mondes, et plus souvent dans le vôtre que dans la réalité. Est-ce que les écrivains ont plus de pouvoir qu'on ne l'imagine?
Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Quand je vois les gens, on sent que... Moi, je sens qu'on n'a peut-être pas un pouvoir, mais qu'on peut faire du bien, qu'on peut apporter quelque chose qui ressemble à du bonheur. On a l'impression, et c'est pas mal de se dire, tiens, on peut peut-être faire du bien à des gens. Et moi, je trouve ça très touchant que des gens... comme moi, j'écris une histoire, et puis de savoir qu'il y a des gens qui sortent des sous de leur poche pour acheter un livre, qui passent des heures à le lire et tout. Moi, je trouve pas ça normal. Moi, je trouve ça bouleversant. Moi,
c'est
ça,
miraculeux.
Moi, ça m'émeut.
Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous, alors? À part la maison de Bretagne qui pépit, qui fait cuicui, comme vous dites, lorsqu'elle est envahie par tous ces oiseaux, qu'est-ce qui vous chavire? Qu'est-ce qui vous apaise?
Rentrer dans un livre et dire, et je suis parti pour un voyage qui durera...
Mais pas un livre que vous lisez, un livre que vous écrivez.
Un livre que je vais écrire, et me dire, est-ce que je vais être capable d'arriver au bout? Est-ce que je vais savoir le faire? Et de rentrer dans ce monde, de m'attacher au personnage que je raconte et essayer d'arriver au bout.
Alors, cher Jean Telet, avant que ne s'achève notre balade, ben voilà, j'ai une dernière question à vous poser qui ne vous concerne pas directement. Comment va Miu Miu, votre compagne qu'on aime tant?
Elle va très bien. Elle va très bien.
Elle va très bien.
Ouais.
Elle est dans la maison de Bretagne en ce moment.
Non, mais elle va y aller. Ouais. Elle va y aller aussi, ouais, bien sûr. Ouais.
Vous l'embrasserez pour nous.
Ouais.
Formidable. Gare à loup vient de paraître chez Julliard. Et c'est réellement un voyage tout à fait inattendu. Le livre est délicieux et je suis persuadée que Besson va en faire un film.
Ça serait bien.
Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.
Et moi aussi, je vous embrasse et merci pour cette émission. C'est vraiment très agréable de vous entendre, vous apporter plein de vie, plein d'enthousiasme. Et c'est agréable, des gens comme vous, chère Isabelle.
Merci, Jean. C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient samedi prochain dès 15h avec de nouveaux invités. La reine de beauté Iris Mittenaere et le chorégraphe Kamel Wally. Et oui, le 2 mai prochain, l'ex Miss Univers 2016 se glissera dans le costume de meneuse de revue au Paradis Latin. Et puis dimanche, ce sera au tour de Laurent Deutsch de se livrer à des confidences. Bon dimanche avec Europe 1. À suivre, Carl Zéro et ses tontons flingueurs, la rediff du week-end. Europe 1.